Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Dominus vobiscum.
Le Seigneur soit avec vous.
Jauna suekin.
El Señor esté con vosotros.
The Lord be with you.
Présentation de la nouvelle traduction française du Missel romain. Monseigneur Marc Ayé.
Nous arrivons à la quatrième prie eucharistique prévue dans le missel réformé de Paul VI, qui évidemment est moins connue car elle est moins utilisée. Elle est beaucoup plus longue. Elle possède une préface qui est obligatoirement liée à cette prie eucharistique. On ne peut pas la prendre sans la préface qui la précède. Cette prie eucharistique est elle aussi composée à la suite de la réforme liturgique de Vatican II, mais elle est inspirée par une vénérable anaphore, ça veut dire prière eucharistique, orientale de Saint Basile au IVe siècle. Voyez, c'est intéressant parce qu'on voit bien que s'il s'agit bien d'un missel romain, qui est dans la tradition de l'Église latine, où l'on privilégiait jusqu'à présent le canon romain, qui est la première prière eucharistique, demeurée dans le nouveau missel, on a introduit, au moment du Concile Vatican II, des éléments hérités, comme nous l'avons déjà dit pour la deuxième prière eucharistique, et aussi un peu pour la troisième, hérités des traditions orientales. Comme cette vénérable anaphore de Saint Basile au IVe siècle. Pourquoi, sans doute, on pourrait dire que ça travestit un peu la romanité, en tout cas la tradition romaine de ce rite romain, mais c'est certainement pour mieux souligner que l'Église, comme le dira Jean-Paul II par la suite, qui était très sensible à cette communion, l'Église qui doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Occident, donc de l'Église latine, et celui de l'Orient, donc avec toutes ses traditions liturgiques orientales, byzantines, etc. Bien sûr qu'on y voit aussi un souci qui est peut-être né au Concile Vatican II par un engagement œcuménique plus prononcé, un vrai souhait de grandir dans l'unité des chrétiens. On y voit en effet le désir œcuménique de nous unir davantage à l'Église d'Orient et à tous ses rites, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que chez nous, dans les églises orientales, tant au Moyen-Orient que dans l'Est de l'Europe. Donc cette prière est héritée de cette anaphore orientale de Saint Basile et elle est riche de réminiscences bibliques. Et au fond, son orientation, c'est d'inscrire la liturgie eucharistique, qui est centrée évidemment sur le mystère pascal du Christ, dans toute l'histoire du salut. Donc finalement, on se rend compte que par le mystère pascal du Christ, sa mort et de sa résurrection, nous entrons dans toute l'histoire du salut et notre histoire elle-même devient une histoire du salut. Voilà pourquoi il y a tout un récit de cette histoire du salut qui scande cette longue prière eucharistique. Donc nous partons quand même d'une bénédiction un peu de type juif de la création. Nous proclamons l'œuvre de la création et l'œuvre du salut, car Dieu n'a pas abandonné l'homme dans sa miséricorde à la condamnation à cause du péché, où l'homme avait gâché la beauté et la bonté de la création. Et il vient au secours de l'homme en soulignant que le salut de l'humanité est une œuvre trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je peux lire cette première partie de la quatrième prière eucharistique. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour, tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul son créateur, il règne sur la création. Vous voyez, c'est tout le dessein créateur de Dieu qui est à l'origine donc de cette prière. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Vous voyez donc, c'est le dessein de salut de Dieu qui est exprimé d'ailleurs dès ce qu'on appelle le protévangile dans la Genèse 3.15 où Dieu promet un rédempteur à l'homme pécheur. Et cette annonce du salut qui est relayée à travers l'histoire par les prophètes et les alliances que Dieu a fait avec son peuple, d'abord son peuple élu, et qui va s'accomplir évidemment dans l'envoi de son Fils, dans le mystère de l'incarnation, rédemption, dans la nouvelle éternelle alliance. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur, Dieu fait homme, conçu l'Esprit Saint. Vous voyez, je ne vais pas lire toute la prière, mais c'est tout le mystère du salut, et d'une certaine manière tout le mystère de la foi, qui est, tel qu'on le trouve d'ailleurs dans le Credo, qui est un résumé de toute la révélation, qui est exprimé dans cette prière eucharistique, jusqu'à ce que le Christ, par sa mort et sa résurrection, sauve effectivement l'humanité et donc accomplisse le dessein de salut de Dieu pour nous. Alors ensuite, on arrive à l'épiclèse préconsécratoire, donc c'est pas la peine d'y revenir. Le récit de l'institution qui est introduit d'une manière plus ample que dans les autres prières, ça mérite d'être lu. « Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Donc on se rappelle Saint Jean, c'est le début du chapitre 13 de Saint Jean, donc le cycle de la Passion et de la Résurrection qui commence par la dernière scène, donc le lavement des pieds. « Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples. » Donc les trois temps de l'Eucharistie, donc les trois temps de l'institution et de l'Eucharistie par Jésus. Et puis, les prières qui suivent, on retrouvera là exactement la même configuration que dans la deuxième et la troisième prière eucharistique, l'anamnèse et acte d'offrande, l'épiclèse sur le peuple, c'est-à-dire la communion au corps et au sang du Christ, pour que nous devenions un seul corps, l'intercession pour l'Église et le monde, avec la mention du pape et de l'évêque, l'intercession pour les défunts, relativement brève, l'intercession pour l'Assemblée en union avec l'Église du ciel et la doxologie finale.